Aristote, Traité de l'âme, livre 2, chapitre 5. Sommaire. Théorie générale de la sensibilité. C'est une simple puissance qui a besoin du dehors pour entrer en acte et arriver à sa perfection. Examen de cette opinion que le semblable peut être affecté par le semblable. Cette opinion est vraie, mais avec une distinction entre l'acte et la puissance. Le sens, avant d'être affecté par l'objet sensible, lui est dissemblable. Il lui devient en quelque sorte semblable après en avoir été affecté. Paragraphe 1. Ces points une fois fixés, parlons de la sensation en général et dans toute son étendue. La sensation, ainsi qu'on l'a dit, consiste à être mu et à éprouver quelque chose, et elle paraît être une sorte d'altération que l'être supporte. Quelquefois, on a prétendu qu'il n'y a que le semblable qui puisse être affecté par le semblable. Nous avons dit dans nos études générales sur l'action et la passion jusqu'à quel point cela est possible ou ne l'est pas. Paragraphe 2. Mais on demande pourquoi il n'y a pas sensation des sensations elles-mêmes, et pourquoi la sensation ne peut avoir lieu qu'avec les objets extérieurs, bien que le feu, la terre et les autres éléments soient dans l'être sensible, et qu'il y ait pourtant sensation, soit de ces éléments mêmes, soit de leurs accidents. C'est qu'évidemment, la sensibilité n'est pas en acte, elle est seulement en puissance. Il en est de même du combustible qui ne brûle pas tout seul et sans la chose qui le doit faire brûler. Car alors, il se brûlerait lui-même et n'aurait aucun besoin du feu réel et effectif. Du feu en entéléchie. Mais comme sentir a pour nous une double acception, et que de l'être qui entend et qui voit en puissance, nous disons qu'il voit et qu'il entend, quoiqu'il soit endormi, tout aussi bien que nous le disons de l'être qui agit réellement. Il faut distinguer dans la sensation ce double sens et reconnaître d'une part la sensation en acte et de l'autre la sensation en puissance. Il en est de même pour sentir, sentir en puissance et sentir en acte. Disons donc d'abord que pour nous, c'est une même chose que souffrir et être mu et être en acte. C'est qu'en effet, le mouvement est une sorte d'acte, mais d'acte incomplet. Toutefois, comme on l'a dit ailleurs, toutes choses souffrent et sont mues par un être qui peut faire et qui est en acte. Et voilà aussi pourquoi, dans un sens, c'est le semblable qui est affecté par le semblable. Et dans un autre sens, c'est le dissemblable. Ainsi que nous l'avons dit, ce qui souffre, c'est le dissemblable, mais ce qui a souffert est semblable. Paragraphe 4. Il faut, en outre, distinguer, même pour la puissance, comme pour la réalité parfaite ou entéléchie, car ici nous parlons de toutes deux d'une manière absolue. Ainsi, nous disons qu'un être quelconque est savant, comme par exemple nous dirions que l'homme est savant parce que l'homme fait partie des êtres qui sont savants et qui ont la science. Mais aussi, nous disons également d'un homme qu'il est savant quand il possède la grammaire. Pourtant, ces deux hommes ne peuvent pas de la même façon. L'un peut savoir parce qu'il a tel genre et telle matière. L'autre peut employer son savoir dès qu'il le voudra, en supposant toujours que rien du dehors ne vienne faire obstacle. Mais c'est celui qui applique actuellement sa science qui est savant en toute réalité, en entéléchie. C'est celui qui sait, à proprement parler, telle chose spéciale, A, par exemple. Ces deux premiers hommes sont donc l'un et l'autre savants en puissance. Mais l'un est savant parce qu'il a été modifié par l'étude, qu'il a fait passer souvent d'un état tout contraire à l'état où il est. L'autre est savant d'une autre façon, parce que possédant la sensation ou la grammaire sans en faire usage, il passe à l'acte quand il le veut. Paragraphe 5. Mais souffrir n'est pas davantage un terme simple. Il signifie tantôt une sorte de destruction faite par le contraire. Tantôt, il signifie plutôt la conservation de ce qui est en puissance, accompli par ce qui est en parfaite réalité, en entéléchie. La conservation de ce qui est semblable, dans le rapport de la puissance à la réalité. Ainsi, l'être, qui possède la science, devient percevant tel objet de sa science. Et cela, certes, n'est pas une altération, car c'est un simple développement de l'être en lui-même vers sa parfaite réalité, son entéléchie. Ou du moins, c'est un tout autre genre d'altération. Ainsi donc, on aurait tort de dire que l'être qui pense, quand il pense, est altéré. Tout aussi bien qu'on aurait tort de dire que le constructeur est altéré quand il construit. Donc, ce qui fait passer l'être qui est en puissance à la réalité parfaite, à l'entéléchie, en fait d'intelligence et de pensée, doit s'appeler, non pas du nom d'apprentissage, mais d'un tout autre nom. Même de l'être qui, de la simple puissance, passe à la science et la reçoit de celui qui la possède en toute réalité, en entéléchie, et qui peut la transmettre, on ne doit pas dire qu'il souffre ainsi qu'on l'a fait voir. Ou bien alors, il faut admettre deux sortes d'altérations. L'une qui est un changement en des dispositions privatives, et l'autre un changement qui mène à telles habitudes et à telle nature. Paragraphe 6. Le premier changement de ce genre dans l'être sensible vient de l'être même qui l'engendre, et quand il est engendré, il a déjà comme la science et la sensibilité. Être en acte a les mêmes nuances qu'avait plus haut le mot de percevoir. Mais ici, il y a cette différence que, quand l'acte existe, ce qui le produit vient du dehors. C'est l'objet vu, l'objet entendu, ou tel autre objet sensible. La cause en est que la sensation en acte ne s'applique qu'aux choses particulières, tandis que la science s'applique aux choses universelles. Mais les universaux sont en quelque sorte dans l'âme elle-même. De là vient qu'on peut penser spontanément quand on le veut, mais on ne peut pas sentir spontanément, car il faut de toute nécessité qu'il y ait une chose à sentir. Il en est tout à fait ainsi, même dans la science que nous acquérons des choses sensibles, et par un motif tout pareil, puisque les choses sensibles sont à la fois particulières et du dehors. Mais nous retrouverons encore l'occasion d'éclaircir ceci davantage. Paragraphe 7. Pour le moment, bornons-nous à dire que cette expression « être en puissance » n'est pas une expression simple et qu'il faut l'entendre tantôt en ce sens, par exemple, où nous disons qu'un enfant pourrait être général d'armée. Tantôt en ce sens où nous le disons de celui qui est réellement en âge d'être général. Le mot de sensibilité a tout à fait les mêmes nuances. Mais comme cette différence n'a pas reçu de nom spécial, bien que nous ayons dit pourtant que ces acceptions sont distinctes et comment elles le sont, nous avons dû nécessairement nous servir des mots « souffrir » et « être altéré » comme d'expressions reçues. Mais l'être qui sent est en puissance, à peu près, comme est en réalité, en entéléchie, l'être senti, ainsi qu'on l'a dit. Il n'est donc pas semblable quand il souffre, mais quand il a souffert, il est rendu semblable, et il est comme l'objet même qui l'affecte. Chapitre 6. Sommaire. Signification diverse du mot « sensible » appliqué aux objets des sens. Premièrement, objet sensible, propre à un seul sens. Deuxièmement, objet sensible, perçu par tous les sens. Troisièmement, objet sensible, perçu par simple accident et simultanément à d'autres objets. Paragraphe 1. Parlons d'abord, pour chaque sens, des objets sensibles. Objet sensible peut s'entendre de trois façons. Deux, où nous disons sentir en soi, et une, où nous le disons par accident. Des deux premières acceptions, l'une signifie ce qui est propre à chaque sens, et l'autre, ce qui est commun à tous. Paragraphe 2. J'appelle propre ce qui ne peut pas être senti par un autre sens, et ce sur quoi le sens ne peut se tromper. Et par exemple, la vue s'applique à la couleur, l'ouïe au son et le goût à la saveur. Le toucher a encore bien plus de différentes nuances, mais chaque sens discerne ce qui lui est propre et ne se trompe ni sur la couleur ni sur le son. Mais il connaît ce qu'est l'objet coloré et où il est, ou bien ce qu'est l'objet sonore et où il est. Paragraphe 3. C'est là ce qui est appelé objet propre de chaque sens. Mais ce qu'il y a de commun pour tous, c'est le mouvement, le repos, le nombre, la figure, la grandeur. Car tout cela n'appartient en propre à aucun sens. Ce sont des objets communs à tous. Et ainsi, il y a un certain mouvement qui est sensible au toucher et à la vue. Paragraphe 4. On dit d'un objet sensible qu'il est sensible par accident, quand, par exemple, l'objet blanc qu'on voit est le fils de Diarès. Car ce n'est que par accident qu'on a cette sensation du fils de Diarès, parce que c'est un accident du blanc que l'on sent et que par suite, on n'éprouve rien de la part de l'objet sensible en tant qu'il est de telle façon. Mais les objets propres des sens sont, parmi les choses qui sont sensibles en soi, celles qui doivent être précisément appelées sensibles. Et ce sont les choses auxquelles s'applique essentiellement et par nature chacun des sens. Chapitre 7. Sommaire. Théorie générale de la vision. Théorie particulière de la couleur. La couleur est ce qui met la lumière en mouvement. Réfutation d'une opinion d'Empédocle sur l'origine de la lumière. Corps phosphorique. L'air est indispensable comme milieu pour l'acte de la vision. Réfutation de Démocrite qui croyait qu'on peut voir dans le vide. Les autres sens, aussi bien que la vue, ont besoin d'un milieu spécial pour leur action propre. Paragraphe 1. Ce à quoi s'applique la vue est un objet visible. Le visible est la couleur, et tout ensemble, tous ces objets qu'on peut désigner par le langage, mais qui n'ont pas de nom commun. Ce que nous voulons dire ici deviendra plus clair à mesure que nous avancerons. Ainsi, le visible est la couleur, et la couleur est ce qui est sur la chose visible en soi. Visible en soi est ce qui est visible, non pas d'après son appellation seule, mais ce qu'il est parce qu'il a en soi la cause qui le rend visible. Toute couleur met en mouvement ce qui est diaphane actuellement. Et c'est là sa nature principale. il n'y a donc pas, sans lumière, d'objet visible, et la couleur de chaque chose n'est visible qu'à la lumière. Et voilà pourquoi il faut dire d'abord ce qu'est la lumière. Paragraphe 2. Le diaphane existe certainement, et j'appelle diaphane ce qui est visible. Non pas visible par soi-même à parler absolument, mais visible par une couleur étrangère. Tel est l'air, tel est l'eau et beaucoup de corps solides, car l'air et l'eau ne sont pas diaphanes en tant qu'air et eau, mais parce que la nature qui est dans ces deux corps est la même que celle qui est dans le corps éternel supérieur. La lumière est l'acte du diaphane en tant que diaphane. Mais ce en quoi il est en puissance peut être même l'obscurité. Au contraire, la lumière est, on peut dire, la couleur du diaphane, lorsque le diaphane est diaphane en toute réalité, en entéléchie, soit par le feu, soit par telle autre cause, comme par exemple le corps supérieur, car ce corps a quelque chose de tout pareil et d'identique au feu. On a donc établi que le diaphane et la lumière ne sont ni du feu, ni absolument un corps, ni une émanation d'aucun corps, car de cette dernière façon aussi, ce seraient les corps. Seulement, il y a dans le diaphane la présence du feu ou de quelque chose d'analogue, car il n'est pas possible que deux corps soient à la fois dans le même corps. Paragraphe 3. La lumière paraît être le contraire des ténèbres. L'obscurité est la privation de cet état de l'air qui vient du diaphane. De sorte qu'évidemment, la lumière n'est que la présence de cet état. Empédocle, ou peut-être est-ce un autre qui a soutenu cette opinion, a eu tort de dire que la lumière circulait et se produisait quelquefois entre la terre et ce qui l'entoure sans que nous le vissions. Ceci est à la fois contraire à la vérité, telle que la donne le raisonnement, et au phénomène. Dans un petit intervalle, ce fait pourrait nous échapper, mais de l'Orient au couchant, c'est beaucoup trop prétendre que de soutenir qu'il nous échappe. Paragraphe 4. C'est une chose incolore qui reçoit la couleur. C'est une chose insonore qui reçoit le son. Ce qui est incolore, c'est le diaphane, c'est l'invisible, ou du moins ce qui est à peine visible, ainsi que semble l'être l'obscurité. Voilà bien ce que c'est le diaphane, non pas quand il est diaphane en toute réalité, en entéléchie, mais seulement quand il est en puissance. C'est, en effet, la même nature qui est tantôt ténèbres et tantôt lumière, et les choses visibles ne sont pas toutes dans la lumière. C'est seulement la couleur propre de chacune d'elles. Ainsi, il y a des choses qu'on ne voit pas dans la lumière, mais qui produisent sensation dans les ténèbres, comme les corps qui semblent tignés et brillants. Nous n'avons pas de nom spécial et unique pour désigner ces corps, et tels sont le champignon, la corne, les têtes des poissons, leurs écailles et leurs yeux. Mais on ne voit la couleur propre d'aucune de ces choses. Par quelle cause ces corps sont-ils visibles? C'est une autre question. Paragraphe 5. Nous nous bordons ici à dire que certainement ce qui est visible à la lumière, c'est la couleur. Et ainsi donc, elle ne peut être vue sans la lumière. Car l'essence de la couleur, avons-nous dit, c'est de mettre en mouvement ce qui est diaphane en acte. Et la réalité complète, l'entéléchie du diaphane, c'est la lumière. La preuve en est évidente. Si l'on place sur l'organe même le corps qui a la couleur, on ne le verra pas. mais la couleur meut le diaphane et, par exemple, l'air, et l'organe sensible est mu par l'air, qui lui-même est continu. Paragraphe 6. Démocrite n'a donc pas raison de penser que si le milieu devenait vide, on verrait parfaitement bien, même une fourmi dans le ciel. Cela est tout à fait impossible. La vision ne se produit que quand l'organe sensible éprouve quelque affection. Or, il ne se peut pas qu'il soit affecté directement par la couleur même qui est vue. Reste donc qu'il le soit par le milieu. Ainsi, un milieu est indispensable. Et si le vide existait, non seulement on ne verrait pas bien, mais on ne verrait point du tout. Paragraphe 7. On a dit pourquoi il est nécessaire que la couleur soit vue dans la lumière. Le feu est vu tout aussi bien, et dans les ténèbres et dans la lumière, et il le faut nécessairement, puisque c'est par le feu que le diaphane devient diaphane. Paragraphe 8. Même raisonnement pour le son et pour l'odeur, car aucune de ces choses n'a besoin de toucher l'organe pour causer la sensation. Mais le milieu est mis en mouvement par le son et par l'odeur, et chacun des deux organes l'est à son tour par ce milieu. Si l'on vient à poser le corps sonore ou le corps odorant sur l'organe même, il s'y cause plus de sensations. Il en est absolument de même du toucher et du goût, bien que cela ne soit pas aussi évident. Pour quelle cause? C'est ce qu'on verra plus tard clairement. Paragraphe 9. Le milieu des sons, c'est l'air. Celui de l'odeur n'a pas de nom spécial. Il ne s'en produit pas moins quelques modifications communes, et dans l'air et dans l'eau. Et ce que le diaphane est à la couleur, ce qui est dans ces deux éléments, l'est au corps odorant. En effet, les animaux aquatiques eux-mêmes paraissent avoir le sens de l'odorat. Mais l'homme et les animaux terrestres qui respirent ne peuvent sentir l'odeur s'ils n'aspirent pas. Nous en dirons aussi plus loin la raison. Chapitre 8. Sommaire. Théorie générale de l'audition. Théorie particulière du son. Trois conditions sont indispensables pour que le son se produise. Corps sonore, corps insonore, l'écho. L'air ne fait pas le son. Mais sans lui, le son ne serait pas perçu par l'oreille. Rôle de l'air dans l'audition. Rôle de l'oreille. Perception du son dans l'eau. Théorie du grave et de l'aigu. Théorie de la voix. Définition de la voix. Animaux qui en sont privés. Rôle du gosier et du poumon. Caractère propre de la voix. Paragraphe 1. Étudions maintenant, avant les autres sens, le son et l'ouïe. Le son est double. L'un est en acte et l'autre n'est qu'en puissance. Nous disons de certaines choses qu'elles n'ont pas de son, telles que l'éponge, la laine, et que d'autres en ont, comme les reins et tous les corps durs et lisses, parce que ces autres choses peuvent résonner, c'est-à-dire causer entre l'objet et l'ouïe un son réel, un son en acte. Paragraphe 2. Le son en acte se produit toujours par un corps en rapport avec quelque autre corps et dans quelque milieu. C'est une percussion qui le cause. Aussi, y a-t-il impossibilité que le son se produise quand il n'y a qu'un seul objet, car l'objet qui frappe est différent de l'objet frappé. Ainsi, le corps sonore sonne relativement à quelque autre objet. mais il n'y a pas de percussion sans mouvement. Et ainsi que nous l'avons dit, le son n'est pas le coup de chose prise au hasard. La laine a beau être frappée, elle ne rend pas de son. Mais les reins et tous les corps lisses et creux en rendent quand on les frappe, les reins en particulier, parce qu'il est lisse. Les choses qui sont creuses rendent, par la réflexion, plusieurs coups après le premier, le milieu qui est mis en mouvement ne pouvant en sortir. Paragraphe 3. On entend le son dans l'air, on l'entend aussi dans l'eau, mais moins distinctement. L'air n'est pas la condition souveraine du son, non plus que l'eau. Mais il faut que ces corps soient des corps solides, qui se choquent entre eux, et encore qui choquent l'air. Ce choc contre l'air a lieu lorsque l'air frappé demeure et ne se disperse pas. Ainsi, c'est quand on le frappe vite et fort qu'il rend un son, car il faut le mouvement du corps qui déchire la tranche de l'air, comme si l'on frappait un tas de poussière ou une nuée de sable emportée rapidement. Paragraphe 4. L'écho se produit lorsque l'air est relancé de nouveau par le premier air qu'a réuni le vase qui le limite et l'empêche de se disperser, comme une balle relancée. Il semble que l'écho devrait être perpétuel. Pourtant, il n'est pas toujours clair et perceptible, parce qu'il en arrive du son comme de la lumière. Ainsi, la lumière se réfléchit toujours, car autrement, il n'y aurait pas de lumière partout, et il n'y aurait que ténèbres en dehors de l'endroit éclairé par le soleil. Mais elle n'est pas réfractée partout comme elle le serait par de l'eau, de l'airain ou quelque autre corps lisse. Elle l'est de manière à produire de l'ombre qui nous sert à distinguer la lumière elle-même. Paragraphe 5. On a raison de dire que c'est le vide qui est la condition souveraine de l'audition, si l'on admet que l'air soit le vide. C'est bien l'air qui fait qu'on entend, quand il est mis en mouvement dans un sens continu et un. Mais comme il est diffluent, il ne résonne pas, à moins que l'objet frappé ne soit lisse. Alors, aussitôt, il devient un par son contact avec la surface. Car la surface d'une chose bien lisse est une. Paragraphe 6. Un corps sonore n'est donc pas autre chose que ce qui meut l'air, un sans discontinuité, jusqu'à l'ouïe, et l'ouïe est congénère à l'air. C'est parce que le son est dans l'air qu'après avoir mu le dehors, il meut aussi le dedans. Voilà pourquoi l'animal n'entend pas partout, pas plus que l'air ne pénètre partout. Et en effet, la partie de l'organe qui doit être mue et qui est animée n'a pas partout de l'air. L'air en lui-même n'a pas de son parce qu'il est trop aisément divisible. Mais quand on l'empêche de se disperser, le mouvement qu'il reçoit devient alors du son. Or, l'air qui est dans les oreilles y est logé profondément pour y être immobile, afin que l'organe perçoive exactement toutes les nuances diverses du mouvement. Voilà aussi comment nous entendons dans l'eau. C'est que l'eau ne pénètre pas jusqu'à l'air qui est congénère au son, mais il faut qu'elle n'entre pas non plus dans l'oreille par les circonvolutions. Et lorsqu'elle s'y introduit, on ne peut plus entendre. On n'entend pas davantage quand la membrane est malade, de même qu'on ne voit plus quand la peau qui est sur la pupille de l'œil devient malade aussi. Mais la preuve qu'on entend ou qu'on n'entend pas, c'est que l'oreille bruit toujours comme lorsqu'on en approche une corne. L'air qui est dans les oreilles est toujours mu d'un certain mouvement qui lui est particulier. Mais le son lui est étranger et ne lui est pas propre. Et si l'on dit qu'on entend, et par le vide, et par le corps qui résonne, c'est que l'on entend par la partie de l'organe qui renferme l'air limité. Paragraphe 7. Est-ce le corps frappé ou le corps frappant qui résonne? C'est l'un et l'autre, mais d'une façon différente. Le son est le mouvement de ce qui peut être mu, à la manière des choses rebondissantes par les corps lisses quand on les choque. Mais tout corps frappé ou frappant ne rend pas de son ainsi qu'on l'a dit. Et par exemple, quand une pointe frappe une pointe. Il faut que le corps frappé soit mu de telle sorte que l'air en masse rebondisse et soit agité en masse. Paragraphe 8. Quant aux différences des corps résonnants, elles s'aperçoivent aisément dans le son réel, le son en acte. Ainsi, de même que sans lumière, on ne voit pas les couleurs, de même, on ne perçoit pas le grave ou l'aigu en l'absence de son. Grave et aigu sont des expressions tirées par métaphore des objets sensibles au toucher. L'aigu, en un court espace de temps, meut le sens un grand nombre de fois, et le grave, en un long espace de temps, le meut fort peu. Ce n'est pas que l'aigu soit rapide, ni que le grave soit lent. Mais le mouvement que fait l'un se produit avec rapidité et celui que fait l'autre avec lenteur. Et l'on voit qu'il y a ici ressemblance avec l'aigu et l'obtus perçu par le toucher. L'aigu, en quelque sorte, semble percer l'organe, l'obtus le pousse seulement, parce que le mouvement a lieu pour l'un en peu de temps et pour l'autre en beaucoup de temps. Et il en résulte que l'un est rapide et que l'autre est lent. Bornons-nous à ces considérations sur le son en général. Paragraphe 9. La voix est un son produit par un être animé. Parmi les êtres inanimés, aucun n'a de voix. Mais c'est uniquement par similitude qu'on dit d'eux qu'ils en ont une, comme on le dit en parlant de la lyre, de la flûte et de toutes les autres choses sans vie qui ont une vibration, un chant, un langage. Il semble qu'elles aient une voix parce que la voix a aussi toutes ses nuances. Beaucoup d'animaux n'ont pas de voix, et par exemple les animaux qui n'ont pas de sang, et les poissons parmi ceux qui ont du sang. Ceci est tout simple, puisque le son est un certain mouvement de l'air. Les poissons qui, à ce que l'on prétend, ont une voix, comme ceux de l'Achelous, font du bruit avec leurs branchies ou avec tel autre organe. Paragraphe 10. La voix est donc le son propre de l'animal, mais elle n'est pas produite par la première partie venue. Et comme le son se produit toujours à ces conditions qu'un corps en frappe un autre dans un milieu, lequel milieu est l'air, on peut dire avec raison que ces êtres-là seuls ont une voix qui reçoivent l'air. La nature emploie à deux usages l'air respiré. De même que la langue lui sert, et pour le goût et pour le langage, l'un, le goût étant nécessaire, et aussi ayant été donné par elle à la plupart des animaux, et l'autre, le langage, n'ayant pour but que leur bien-être, de même, la nature fait servir le souffle, et pour la chaleur intérieure qui est indispensable, l'on en dira la raison ailleurs, et en outre pour la voix, faite seulement en vue du bonheur de l'individu. Paragraphe 11. L'organe de la respiration, c'est le gosier. Et c'est encore pour cette fonction qu'est faite une autre partie du corps, le poumon. Ce dernier organe, en effet, est cause que les animaux terrestres ont plus de chaleur que les autres. Le premier lieu vers le cœur a aussi besoin de la respiration. Et voilà pourquoi il faut nécessairement, quand on aspire, que l'air entre en dedans. Ainsi donc, le coup que l'air aspiré par l'âme, qui est dans ses parties, donne contre ce qu'on appelle l'artère, c'est la voix. Mais tout son produit par l'animal n'est pas une voix, ainsi que nous l'avons dit. Et par exemple, on peut produire aussi un son avec la langue, comme le font ceux qui toussent. Mais il faut, pour qu'il y ait voix, que le corps frappant soit animé et qu'il y mette une certaine intention. La voix, en effet, est un son exprimant quelque chose. Ce n'est pas un simple bruit de l'air respiré, comme la toux. Mais par ce mouvement, l'être frappe l'air qui est dans l'artère contre l'artère même. Paragraphe 12. La preuve, c'est qu'on ne peut émettre de voix si au lieu d'aspirer et d'expirer, on retient l'air, car en le retenant, on trouble cette fonction. On voit aussi comment les poissons sont sans voix, c'est qu'ils n'ont pas de gosier. Et s'ils sont privés de cet appareil, c'est qu'ils ne reçoivent pas l'air et ne respirent pas. C'est d'ailleurs qu'il faut examiner la cause de leur organisation.